France Inter. .fr.
بچه‌ها با خبر بدر قسمت کنن که بالکل راستی شاید مرده باشین. آماده؟ کامرا آماده؟ اکشن!
Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. Une heure, tout vous.
Hey, boy! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Une heure, tout vous.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Il fabrique du cinéma dans un pays en guerre depuis 30 ans. Salim est un héros, tout comme ceux qui, dans un pays, le nôtre, proposent chaque jour des films aux spectateurs. Deux formes d'engagement pur et enthousiaste. Voir des films, voir le monde, ce matin, place aux explorateurs. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Avec sa bande de comédiens, son énergie et son excentricité, il tourne. Plus de 100 films au compteur. Pas des trésors de cinémathèque, non, mais des nanars dont il est le héros. Salim Shahin, le Ed Wood afghan. Sonia Kronlund l'a suivi et le résultat est étonnant. Nothing Wood, ce film sort mercredi prochain et Salim Shahin est notre premier invité. Et ce film se retrouvera sans doute dans leur salle. Bonjour Michel Berrebi.
Bonjour.
Patronne du Capitole à Uzès et vous aussi l'une des héroïnes d'un film, Macadam Popcorn, un tour de France des exploitants de cinéma, comme votre voisin. Bonjour Luigi Magri.
Bonjour.
Directeur du Jacques Tati à Tremblay en France. Michel et Luigi, deux formes de résistance face au circuit, deux exceptions culturelles parmi d'autres. Merci d'exister et d'être là ce matin. Votre job n'est pas toujours facile et cette nouvelle semaine de cinéma ne va pas nous contredire. Certes, il y a Barbet Schroeder et Aung San Suu, quoique, mais on a connu meilleur. Une question à tous les deux avant d'aller retrouver Salim Shahin. Vous n'aimez pas le terme d'exploitant et vous avez raison. Alors, par quel terme il faudrait le remplacer, Luigi?
Eh bien, je ne sais pas, à vrai dire, si ce n'est que exploitant au départ, l'origine est latine et ça veut dire mettre en lumière. Donc moi, je trouve que ça nous convient bien.
Ben oui.
Sauf que l'histoire, ce mot a été transformé. Il renvoie des dimensions qui nous plaisent très peu, en général.
Agricole, un peu aussi.
Agricole, exploitation de l'homme, par l'homme, etc. Et peut-être que ma voisine me l'a soufflé tout à l'heure, je vais lui laisser le soin de
Alors,
lui...
Alors, Michel
Moi, je trouve aussi que c'est pas le bon terme, parce que... quand on regarde les multiplexes qui, effectivement, sont des exploitants au sens réel du terme, puisqu'ils gagnent beaucoup d'argent et tout, ce qui n'est réellement pas notre cas. Enfin, je pense que nous ne sommes pas deux exceptions dans le métier, et qu'il y en a beaucoup comme nous. Tout à l'heure, je disais, parce que c'est poétique, un passeur d'images, par exemple. Voilà.
C'est pas mal. On vous retrouve, mais d'abord, on va écouter la bande originale d'un film qu'on aime beaucoup et dont on écoutera oui. Le héros, c'est la BO de Nothing Wood, Bachar Mar Khalife.
Europe, Soli, Mitsini, Sumub, Soli, Irhamni, Ghinai, Li, Ajlak, Ali, Ajlak. صمتي لأجلك لأجلك يا رب صمتي لأجلك لأجلك اسمح لي اطلب اخر شي
Quinzaine des réalisateurs à Cannes n'avait pas vécu un tel accueil depuis très longtemps. Ovation debout pour le film Nothing Wood de Sonia Kahnlund. Un vent d'air frais et d'enthousiasme dans une édition, on peut le dire, mezzo morose. Nothing Wood, autrement dit fabriquer du rêve, du cinéma, avec rien du tout. En Afghanistan, en guerre depuis 30 ans, en guerre chaude, froide ou civile, un homme, Salim Shahin, acteur et cinéaste, déploie une énergie étonnante pour réaliser des films, des séries Z fauchées. Shahin, son bagou, sa joyeuse mégalomanie, son talent à improviser et fédérer, et dont on va découvrir peu à peu l'enfance et le passé, pas rose du tout. Pas de cynisme ni d'ironie dans la démarche de Sonia Kahnlund, qu'il a suivi sur un tournage, mais plutôt une façon intelligente et sensible de raconter un pays de l'intérieur par le prisme de cet homme et du cinéma. Faire des films envers et contre tout, et notamment ces talibans qui mènent une guerre contre l'art. Voilà ce que le cinéma peut réussir à faire, et ce film a démontré. Nous avons rencontré Salim Shahin.
قسمت کنن که بالکل راستی شاید مرده باشه. آماده؟ کامرا آماده؟ اکشن! بیاتم! سی دیدی؟ سی اکیو گفتم من!
چی چی لیلن؟
کال قصه را بیدار دیگه گوشنگیز میمارم مردم برو بیدار سیست
سایه
گود شات چک چک بچا دیگه
سلام بر همگی خصوصا مردم پاریس
bonjour à tous et surtout à tous les parisiens et à la radio française. Je suis Salim Shahin et je suis un artiste afghan.
Comment a réagi votre père quand vous lui avez dit « je veux faire du cinéma » ?
En fait, toute ma famille était contre le fait que je travaille pour le cinéma parce que ils n'aimaient pas le cinéma. C'était tabou à l'époque. Et les gens, la société en général, étaient contre ceux qui travaillaient dans le cinéma. Et j'ai été battue, notamment par mes frères, par mon père et par mes oncles. Et mon grand-père était quelqu'un d'important, donc il fallait garder son honneur. Mais j'avais cette passion pour le cinéma et c'est pour ça que j'ai accepté toutes les difficultés.
Vous pensiez que le cinéma allait changer votre destin ?
L'être humain en général ne sait jamais de quoi est fait le lendemain, mais les gens qui veulent vraiment arriver quelque part et qui à côté de ça s'en donnent les moyens arriveront là où ils veulent aller. Et comme je l'ai toujours dit, notamment à mes parents, vous pouvez me tuer, mais je continuerai à travailler dans le cinéma.
C'est-à-dire qu'en fait, vous construisez votre vie comme une vie de héros de cinéma.
Moi, en fait, je suis un enfant, je suis un enfant, je suis un enfant, je suis un enfant,
Alors, depuis que je suis petit, je l'ai toujours dit, c'est la mort, le cinéma ou la mort. Et tant que je suis vivant, je travaillerai pour le cinéma. Comme je l'ai déjà dit, c'est une école pour l'humanité entière. Et même actuellement, en Afghanistan, je pense que le cinéma est nécessaire. Et comme je le dis aux autorités de notre pays en Afghanistan, au lieu de donner des armes aux jeunes, donnez-leur des stylos pour qu'ils puissent exprimer leur art.
Mais je répète la question de Laurent, est-ce que vous êtes un héros dans votre vie quotidienne ?
Oui, je pense l'être, et d'ailleurs en toutes circonstances. Au cinéma, je ne fais pas semblant, et tout ce que je montre dans mes films, c'est la réalité. Je veux que les gens voient la réalité à travers mes films, et c'est grâce à ça que les gens m'aiment beaucoup. C'est-à-dire, tiens-toi.
Et je suis sûr que ce tonnerre qu'on entend, il l'aurait utilisé, vous l'auriez utilisé pour un tournage comme un élément de fiction.
Je pense que vous lisez dans mes pensées, parce que en Afghanistan, on n'a pas beaucoup de moyens pour créer des effets comme ça, et donc si on entend ça en direct, effectivement, on enregistre tout de suite, ça peut nous servir.
Dans vos films, est-ce qu'il doit y avoir absolument des batailles, des chansons et de l'amour?
Dans mes films, en général, je dénonce les violences faites aux femmes, parce qu'en Afghanistan, malheureusement, beaucoup d'hommes maltraitent les femmes, et je suis contre ça, parce que ma mère était une femme, mes femmes sont des femmes, mes filles aussi, et je pense qu'il faut respecter les femmes en général. Par exemple, un autre exemple, les jeunes en Afghanistan, pour beaucoup, sont toxicomanes, ils sont accros à l'héroïne, et je fais des films, du coup, pour dénoncer ce fléau, et également les kidnappings de jeunes. Je fais également beaucoup de films de comédie pour apporter un sourire aux lèvres des jeunes qui meurent tous les jours dans les attaques.
Pourquoi vous dites que Sonia est un homme? Ah, il veut une photo. Vous voulez une photo? Il veut une photo? Alors là, j'explique la situation. Chahine est en train de demander à Laurent de le prendre en photo avec le micro France Inter.
Tu sais quoi, Kat?
J'aime avoir des photos de tout ce que je fais dans ma vie, que je sois avec des gens ordinaires ou pas. J'aime avoir des souvenirs.
Pourquoi vous dites que Sonia est un homme? Pourquoi vous l'appelez Mister Sonia?
Je suis quelqu'un, pas seulement en Afghanistan, mais dans le monde entier, et je dis toujours la vérité. Sonia est comme ma sœur, je l'aime beaucoup. Et vous savez la situation en Afghanistan actuellement, et malgré ces conditions sécuritaires, Sonia est venue, elle a fait son film en Afghanistan, alors je considère qu'elle est aussi courageuse qu'un homme.
Le petit bruit, c'était la sonnerie du téléphone de Chahine.
Il y a un grand débat en ce moment dans le cinéma français, mais pas seulement, qui dit qu'il n'y a pas assez de cinéastes femmes, de réalisatrices. Est-ce que vous comprenez ça?
C'est vrai, c'est dans le monde entier que ça a été prouvé que peu de femmes sont réalisateurs, et c'est pour ça que je l'appelle monsieur.
Et en Afghanistan, ce serait impossible une femme réalisatrice?
بسیار مشکل است که مردان هم میتونه خو زنا رو خوبان.
Ce serait vraiment très difficile. Déjà, les hommes ont du mal à faire des films en Afghanistan, alors les femmes n'en parlons pas. Mais j'aime beaucoup Sonia et c'est pour ça que j'ai accepté de travailler avec elle. Parce que beaucoup de gens d'autres pays ont demandé à faire des documentaires sur moi et je n'ai jamais accepté. Je l'ai fait seulement pour Sonia.
Vous êtes très dur sur un tournage. Comment vous dites action ? J'aimerais que vous le répétiez pour nous quand une scène commence.
Sound, light, amadasi, action.
Nothing Wood de Sonia Kronlund sort mercredi prochain. Ne ratez pas cette perle. Luigi Magri, vous avez vu ce film ?
Oui, bien sûr. Oui.
Est-ce que quand on aime un film à ce point, ouais, je pense que vous l'aimez beaucoup, vous me l'avez dit avant, est-ce qu'il va forcément marcher ? Question à tous les deux d'ailleurs. Question un petit peu fondamentale par rapport à votre métier.
Je vais laisser Luigi répondre.
On a eu, quand on a découvert le film, c'était un ovni, une sorte de surprise incroyable. D'autant que Sonia n'est pas réalisatrice, donc ça multipliait quand même les écueils a priori. Sauf que c'est un film d'une telle énergie qui prône la vie face à la fatalité, à la mort constamment, etc., et qui nous propose, comme vous le disiez en présentation, en sous-texte, une représentation de l'Afghanistan contemporaine, ouais, et même historique, puisqu'on remonte à son enfance,
ouais,
etc.,
et à la guerre,
qui est vraiment passionnant et qui est facile d'accès. Alors nous, on va faire venir la réalisatrice dans 10 jours, donc on est content, on espère que ça va booster. Après, c'est le souhait, quand on aime les films, de se dire, et c'est notre métier, c'est tout l'enjeu de notre travail, c'est de convaincre les spectateurs de venir en nombre. Quand ils viennent, ils sont en général enchantés. Après, là, la période de l'année n'est pas la plus simple, évidemment. Et puis, on travaille, il ne faut pas l'oublier, parce que nous, on ne serait rien sans les distributeurs. Et je trouve que ça, il faut le souligner, le travail des distributeurs est toujours formidable, en tout cas quand ils ont ces films-là.
Tous les deux, donc, vous êtes les héros d'un film qui s'appelle Macadam Popcorn, vous à Tremblay en France et Michel Berrebi à Uzès. Ce film est comme un road movie dans lequel Mathieu Sapin, le dessinateur, parcourt la France du sud au nord en passant par la Normandie et la région parisienne. En fait, le synopsis dit c'est un modèle que le monde entier nous envie, le cinéma français, celui de la diversité qui empêche donc la recrudescence des films américains,
l'empire américain
sur les écrans, l'empire américain. Mais est-ce qu'elle peut toujours s'exercer, cette diversité ? Est-ce que vous arrivez tous les deux à voir les films, Michel ?
Alors, effectivement, elle peut s'exercer. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Luigi, si tous les films que nous aimions drainaient beaucoup de monde, on aurait fait le double des entrées que nous faisons actuellement. Ça, c'est clair. Mais je suis assez d'accord avec lui quand il dit que les gens sortent enchantés. Il est rare que nous ayons aimé un film et que les gens sortent déçus. Malheureusement, ils ne sont pas toujours très nombreux à accéder aux films qu'on leur propose.
C'est en ça que vous n'êtes pas exploitant, Luigi. C'est cette souffrance que vous pourriez ressentir si les gens n'aiment pas les films que vous aimez, vous.
Oui, c'est ça. Et puis, on a quand même tout un ensemble, on travaille pas seul, on travaille avec vous justement, la presse. Ouais. C'est-à-dire pour nous c'est vital la presse.
Ah oui.
Oui, c'est. On a beau dire que ça n'est pas prescripteur, etc., c'est totalement faux. Évidemment pour certaines œuvres c'est plus compliqué. Si on prend les œuvres d'hier, d'Oussia Ossienne ou autre chose, ça va pas être simple.
Mais c'est là où la presse est encore peut-être plus importante.
Exactement. Si je voulais le permettre. Voilà. C'est vraiment un ensemble. On travaille pas seul en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Au-delà de l'équipe même du cinéma qui est vraiment fondamentale, on travaille avec un réseau de professionnels. Et c'est cet ensemble-là qui fait sens aussi. Parce que tout seul, on n'y arriverait pas.
On va écouter un de vos collègues de l'Utopia Avignon, c'est Patrick Guivarc.
Des fois, je pense au cinéma néo-réaliste italien, par exemple. Quand j'imagine ce que les gens allaient voir le samedi soir en Italie après la guerre,
Le voleur de bicyclette.
Par exemple, tout le cinéma néo-réaliste. Et qu'en fait, tu te dis, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que ces gens allaient voir des films qui étaient quand même excellents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les salles à essayer qui défendent ce film. Ces films, c'était que du cinéma populaire à l'époque.
Ouais.
On arrive à des sortes de constats assez surprenants. C'est que la classe ouvrière, j'allais dire, allait voir des films que nous, on chérit et qu'on estime être des films intelligents. Moi, je pense que ce qu'il faut défendre, c'est la diversité des films. Voilà. Il faut qu'on présente le maximum de films sur ce territoire, dans le maximum de monde. Voilà. Donc ça veut dire quoi ? C'est qu'il faut qu'il y ait un maximum de lieux pour le faire. Il y a un maximum de salles de cinéma, mais surtout que ce soit des salles de cinéma qui puissent être diversifiées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toutes liées les uns aux autres pour éviter une sorte de monoprogrammation de groupe.
Et alors qu'est-ce qu'on fait ?
Par rapport à quoi ?
Pour faire venir
les spectateurs dans les salles arrêtées, par exemple ?
Oui.
Je pense qu'il faut défendre des lieux. Il faut arrêter de penser le cinéma juste en film après film. C'est plus que ça. C'est une sorte de lieu où on présente, voilà, une sorte de cohérence de programmation. Là, on présente des films qu'on a envie de défendre, et surtout, il y a quelques films qu'on refuse de passer, justement. Une programmation, ça se fait parce qu'on fait, mais aussi parce qu'on ne fait pas, je pense.
D'accord.
De cohérence, voilà. Utopia, ça sort d'un quelque chose qui est assez précis. Voilà, c'est présenter un certain type de films, qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, des films dominants du marché, loin de là, qui sont des films qui nous intéressent. Pour quelle raison on programme un film ? Parce que le jour où nous, on ne peut plus dire pourquoi on programme un film, où la seule raison qui serait de programmer ce film, c'est de faire du fric, je pense que ce jour-là, notre âme est atteinte. Je pense que notre avenir est incertain.
On est d'accord que chaque salle est unique, bien sûr, en fonction de sa population. Par exemple, Luigi, vous, au Jacques Tati, à Tremblay, avec vos trois écrans, cette salle est dans un milieu dans un environnement qui se paupérise de plus en plus. En plus, vous souffrez d'une concurrence absolument énorme avec l'UGC et les salles de Besson.
Exactement.
Comment on fait pour lutter contre ça ?
Déjà, on essaie de pas lutter contre ça, parce que de toute manière, si on commence à se positionner comme ça, on n'y arrivera pas. Ouais. C'est-à-dire que chaque salle a ses spécificités, vous l'avez dit. On continue le travail. Nous, on a la chance, sur la Seine-Saint-Denis, d'être un réseau de 22 salles, 23 même, publiques ou associatives, où les collectivités territoriales, moi je parle de la ville de Tremblay, sont vraiment là pour nous tenir. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'économie de marché, on est dedans, on s'inscrit dedans, c'est toujours la grande question, cinéma, art ou industrie, etc. Mais il est clair que sans ces aides-là et d'autres aides qu'on peut avoir pour des festivals ou le CNC, tout simplement, on n'y arriverait pas. Face aux mastodontes, les multiplexes sont des rouleaux compresseurs, ils font un travail, parce qu'après ça alimente un compte de soutien, enfin, etc., on ne va pas rentrer dans le détail, mais on fait des choses différentes. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que, à force de les avoir côtoyés, il y a des directeurs de multiplex, et faut pas croire, ils aiment le cinéma. Ils sont tout à fait, non, mais je le dis, ils aiment le cinéma. Et de plus en plus, j'ai envie de dire. Et c'est de plus en plus dangereux, pratiquement, pour nous.
Ah oui, ils ont du goût, en plus.
Voilà, exactement.
Vous, Michel Bérébi, vous êtes au Capitole à Uzès, c'est un autre contexte.
Totalement.
Ouais.
Et totalement, et un contexte bien privilégié par rapport à celui de Luigi.
Ah oui, c'est ça. Et ce cinéma que vous avez, alors vous étiez restauratrice à Paris, et puis vous êtes tombée amoureuse de ce cinéma qui partait un peu à volo.
Qui fermait quasiment.
Ouais, manifestation de 600 personnes, etc. Énorme. Vous avez repris cette salle sur laquelle vous n'avez rien gagné pendant plusieurs années.
Bénévole pendant 10 ans, mais bon.
Donc c'est une passion alors.
Évidemment.
Mais donc il n'y a pas de concurrence comme à Tremblay.
Alors, on a une situation extrêmement privilégiée dans la mesure où 8000 habitants, ça n'attire pas beaucoup de multiplex, ni UGC, ni rien. Ils visent Nîmes, ils visent Avignon, mais aucun intérêt pour eux d'être à Uzès. Je pense sincèrement. Et de surcroît, au niveau du travail qu'on est susceptible de faire pour un film et pour le défendre, en dehors du travail qu'on fait régulièrement par le biais de Facebook, par le biais de la newsletter, etc., on a sur place un avantage considérable. Il suffit d'aller samedi matin sur le marché d'Uzès et de dire ce qu'on a aimé ou pas aimé du film et qu'est-ce qui s'est passé. 3 heures après, tout Uzès est au courant.
Bon, à Tremblay, c'est pas vraiment ça.
Il n'y a plus de marché, donc
ouais, c'est ça.
Ça règle le problème.
Et mais c'est un métier qui se pratique tous les jours, tous les matins, et notamment le lundi matin. Racontez-nous, c'est sur le fameux lundi de la programmation, et c'est là, Luigi, où il faut se battre pour avoir les films ou les garder.
Oui. Alors nous, on est sur un système un peu différent puisqu'on programme au mois, donc on a moins ce stress du vendredi,
cette pression,
du dimanche.
Ouais.
Néanmoins, quand vous avez programmé un film, par exemple, que vous avez adoré, ou vous dites tiens, on va prendre 3 semaines, et puis que dès le premier jour il se plante, bah vous gardez le film sur 3 semaines. Mais ça a d'autres avantages, et c'est un mode de fonctionnement qui est certes beaucoup moins, on va dire, stressant par rapport au programmateur à la semaine. Et surtout, notamment, je pense à Paris et dans les grandes villes de province où il y a une concurrence très forte entre les salles, même les salles à réessayer, quoi.
Tous les deux, vous avez connu, je suppose, le 35 mm avant le numérique.
Absolument.
C'était un passage très important qui est évoqué, et toujours un extrait de Macadam Popcorn par Vincent Kopf de Cinéco en Cévennes.
Donc en fait, c'était une espèce de révolution, le passage au 35.
Ça a permis de programmer ce qu'on voulait.
C'est un peu comme maintenant, finalement. Le passage au numérique.
Oui, Sauf que la paille a encore grossi.
Ouais.
Le 35, c'était mécanique, c'était simple. Le problème, c'était d'avoir le film, c'était de trimballer la pellicule. Mmh. Une fois qu'elle était là, on la passait comme on voulait. Là, maintenant, on est quand même face à des contraintes techniques plus compliquées, du matériel plus lourd. Mais effectivement, on peut passer ce qu'on veut. Et on n'est même plus obligé de passer du cinéma. Mais ça, c'est un gros problème.
Comment ça ?
Pour beaucoup de gens.
Tu peux passer la télé, tu veux dire ?
Tu peux passer des matchs de foot en direct. Il y a des cinémas qui le font, qui commencent à le faire. Tu peux passer des opéras, tu peux passer ce qu'a réalisé ton fils avec le portable.
Là, j'étais au Québec, il passait des DVD dans les cinémas.
Eh oui, ouais, c'est ça le pire. Ouais, c'est ça le pire. Donc oui, le numérique modifie beaucoup de choses. On n'arrive pas aujourd'hui à savoir vraiment jusqu'à où il va modifier les choses.
Ouais.
Je pense qu'il n'y a pas eu de modification aussi profonde du monde du cinéma depuis un siècle, depuis qu'il existe.
Ouais.
Et le nouveau programme.
Super.
Tu es là ?
Non.
Et les gens qui vont voir du
spectateurs, non.
S'en foutent ?
Ouais. Bah ouais. Non, ils se rendent compte qu'il n'y a plus de rayures sur l'écran. Ils se rendent compte que Vincent Lannon parle en français. C'est une vanne entre nous, mais c'est sérieux. C'est qu'en 35, on avait une piste de son qui n'était pas bonne du tout. Mono, et que Vincent Lindon marmonne beaucoup, et en fait, avec des salles qui ne sont prévues pour le cinéma, des acoustiques parfois minables, les gens ne comprenaient jamais ce qu'ils disaient. Donc maintenant, ils vont comprendre.
Et vous, Luigi, vous commencez à comprendre Vincent Lindon au cinéma, ça vous a fait rire, ça?
Bah, dans les versions sous-titrées, oui, parce que finalement, ou pour sourd et malentendant, parce que même avec le numérique, là, dans Rodin, on ne peut pas franchement dire que ce soit convaincant.
Non, mais certaines salles le font, hein.
Bah, oui,
il semblerait.
Franchement, après Rodin, je me suis dit que je devais aller voir en Autorino et vérifier mes oreilles, mais les spectateurs m'ont largement rassuré en me disant qu'ils étaient dans la même situation que moi.
Est-ce qu'on peut ouvrir les salles à d'autres choses que le cinéma? On parlait de, je crois que vous diffusez des concerts dans votre salle.
L'opéra.
À New York.
Le Metropolitan Opera de New York, ouais. Effectivement.
Et ça marche.
Très bien.
Ouais.
Nous, à chaque opéra, je ne considère pas que ce soit du cinéma. Hein. Au départ, il y a quelques années, je l'ai fait pour des raisons parfaitement alimentaires. Il fallait faire survivre le cinéma. Mais c'est vrai que dans une ville comme Uzès, ça varie entre 250 et 350 personnes à chaque opéra, quand même. Ce qui est considérable.
Oui, considérable. Et à Tremblay?
Oui, on le fait, nous, depuis 3 ans, un peu pour les mêmes raisons. Et parce que le public de Tremblay ne se rend pas forcément à Paris, à l'opéra. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir un autre public qui, du coup, s'intéresse également à la programmation. Après, nous, on va aussi sur... Là, par exemple, on va faire le week-end prochain... On fait une reprise hors les murs de Sérimania. Donc on est très ouvert à d'autres formes, parce qu'on pense que aujourd'hui c'est quand même délicat de se positionner de façon, on va dire, presque, j'allais employer quand même un mot assez dur, mais régressif, c'est-à-dire que le monde de l'image est ce qu'il est. Après il y a des choix à faire, il y a des séries très bien, il y a aussi tout le travail qu'on fait avec les enfants en pédagogie, qui nous permet de... Le numérique nous facilite le passage de leur réalisation, etc. Les films amateurs, enfin, il y a beaucoup de choses, l'autoproduction qui se fait, et c'est quand même une souplesse qui pouvait exister auparavant, mais qui était beaucoup plus compliquée. Quoi.
Est-ce que ce film Macadam Popcorn vous a encore plus convaincu de faire ce métier ?
En tout cas, Michel, moi, je trouve que le film, en dehors de moi, parce qu'encore une fois, j'ai une situation extrêmement privilégiée. C'est un bel hommage à tous ces gens. On a entendu Vincent Koff, à tous ces gens qui se battent pour pas grand-chose, qui ont des nuits très courtes, qui passent leur temps à essayer de trouver des bénévoles pour appuyer. Donc moi, je trouve quand même que c'est un bel hommage à tous ces gens-là, y compris à moi, d'ailleurs, au passage. Mais...
Bien sûr.
Et Luigi,
moi, je partage le sentiment de Michel, et je dirais même que c'est un film... que les élus
d'utilité
devraient aller voir.
Vrai,
parce que c'est très important aujourd'hui, le maillage territorial, en milieu rural aussi, urbain, périurbain. Et il y a un petit peu un désintérêt parmi certains, on va dire. Et là, c'est une belle occasion de leur montrer la vitalité et l'importance de ce travail.
Il faut dire que c'est un trésor national, hein, le maillage des salles en France. C'est nulle part ailleurs au monde. Hein. Il n'y a aucun autre pays au monde où on a autant de salles. Dans...
Exactement.
Et parfois, des équipes descendent ou montent pour aller présenter leurs films dans vos cinémas, comme en témoigne Antoine Pérenniguez à Montpellier.
Pour faire que les gens viennent dans les salles, c'est tout simplement c'est qu'il faut que quelque chose se passe dans les salles. Il faut créer des liens, des rencontres avec les auteurs, etc. On a fait des trucs, mais balèzes, quoi. On a fait venir Abbas Kiarostami, on avait fait une séance avec les enfants d'une école du quartier, et il y avait eu un débat avec Kiarostami ensuite, et tout, c'était génial, quoi. Et pour les gamins et tout, c'était génial. C'est important.
C'est important parce que les spectateurs ont envie de...
Mais il y a un contact qui est très important et pour le réalisateur ou la réalisatrice et pour le public. C'est d'avoir là en face la personne qui a passé des années à bosser, à écrire, ensuite à réaliser, à monter, etc., à faire le film et qu'elle vienne te montrer le résultat de son travail. Et en parler ensuite, parfois, c'est très critique.
Hein. Oui, j'allais dire, il vous a eu peut-être des rencontres un peu enflammées parfois.
Bien sûr. Mais c'est toujours constructif.
Michel Berrebi, Luigi Magri, vous avez des souvenirs, des beaux souvenirs comme ça de présence d'équipe?
Oui, moi j'ai un souvenir absolument magnifique qui était avec Tony Gatliff quand il est venu présenter Liberté.
Oui.
Et ce qu'on n'avait pas imaginé, ni lui ni moi, c'est que toute la communauté romanichelle du Gard était là au cinéma. Et souvent, des gens qui n'avaient jamais mis les pieds au cinéma. Donc ils arrivaient en nous disant, nous on est deux, et les deux enfants, on en prend un sur la jambe droite et un sur la jambe gauche. Après un instant d'hésitation, j'avais décidé de laisser faire. Donc ils sont rentrés comme ça. Et à un moment, j'ai dû mettre un terme à cause d'un problème de sécurité, uniquement à cause d'un problème de sécurité, quand se présente une dame extrêmement bien habillée, avec une jupe très jouponnée, un chemisier, mais une poussette et un chien quand même. Et Tony Gatliff me regarde en me disant « qu'est-ce qu'on fait ?» Et je lui dis « on va la laisser rentrer, tu prends le chien, je prends la poussette. » Et on a mis dans le couloir le chien et la poussette, on a présenté le film, et on s'est retrouvés tous les deux rue Xavier Cigalon, lui le chien et moi la poussette. Après, on a eu droit à un concert sublime de tout ça.
Ouais.
C'est le plus beau souvenir de cinéma.
Parce que c'est un cinéaste très généreux. Et vous, Luigi, un souvenir de présence à Tremblay?
Tout comme Michel, on en a beaucoup, mais... Peut-être un récent qui m'avait beaucoup ému, c'est La Venue de Grand Corps Malade, avec toute l'équipe du film, et puis les distributeurs qui étaient là également. Et puis donc une belle rencontre, une belle discussion, un bel échange du public qui était vraiment... il y avait près de 300 personnes. Et ce qui... Grand Corps Malade, il n'est pas... Physiquement, il est quand même un petit peu...
Fragile.
Mal en point, fragile. Et il est resté dehors trois quarts d'heure avec des jeunes à discuter. C'était... juste hallucinant. Et pour une fois, c'est moi qui craquais un peu, c'est-à-dire, je me disais, mais on va peut-être y aller, parce que, et non, il avait envie de continuer. Et c'est ces échanges-là qui sont géniaux.
Alors, on va passer par nous pour dire aux réalisateurs et aux acteurs, s'il vous plaît, déplacez-vous dans les salles, parce que ça laisse de tels souvenirs. Merci à tous les deux, vous êtes les héros, donc, de Macadam Popcorn, de Jean-Pierre Pozzi, qui sort le 21 juin, Michel Berrebi, Luigi Magri. Vous restez avec nous, on va parler des sorties après les 10 heures, Je rêve d'ailleurs.
Je rêve d'ailleurs, d'ailleurs atmosphérique.
Oui, نضحك ونبكي مع حبابي في الجنة في الجنة فرحبا ندعرفين وسهيين.
Je rêve d'ailleurs de villes constellées. Je rêve d'ailleurs de pays safari.
Oui, نضحك ونبكي مع حبابي في الجنة في الجنة فرحبا مدعرفين وزهين.
Je rêve d'ailleurs avec pour seul bagage tes yeux pour le voyage.
d'ailleurs, d'ailleurs inconnus. Je rêve d'ailleurs, d'ailleurs et d'imprévus.
Oui, notre hakoun est qui ma habibi, fujna, farahba.
Alors parlons de ces nouveaux films et exposons-les à nos directeurs de salle qui sont avec nous. On va commencer par Le jour d'après du cinéaste coréen et prolifique Hong Sang-soo. Il était en compétition à Cannes cette année, un homme, Bong Wan, éditeur, entre deux femmes, la sienne qui le suspecte dès l'ouverture du film d'avoir une maîtresse, ce qu'il ne nie pas, mais sans le dire vraiment, premier témoignage d'une grande lâcheté. Oui, Bong Wan a bien une maîtresse, mais ce n'est pas celle qu'on croit, un homme, deux femmes. Une troisième, l'assistante, témoin de cet adultère et de ses cris et de ses altermoiements du cœur, ajoutez le noir et le blanc, pas si noir, pas si blanc, et vous repensez à un grand modèle français, la maman et la putain de Jean Eustache. C'est lourd comme héritage, sans compter le côté autobiographique de l'entreprise. À Cannes, nous apprenions, parce qu'ils l'ont révélé tous les deux, que l'actrice qui incarne la jeune assistante du film n'est autre que le nouveau grand amour du cinéaste qui a quitté sa femme pour elle. Et voilà que la vraie vie vient s'immiscer dans ce film, ce qui a fait dire à certains critiques que cet adultère hors cinéma rendait le film plus intime encore. Quel drôle d'argutie, et en avait-il besoin. 1h30 d'aller retour présent, passé sur les larmes, les disputes, les marivaudages, où Hong Sang-soo brouille les pistes plutôt habilement entre une femme et sa remplaçante, et finalement l'homme est démasqué dans sa pathétique lâcheté, Laurent. C'est épuisant.
Mais non, pas du tout, c'est pas épuisant du tout. C'est un magnifique film sur la lâcheté masculine, mais c'est pas le premier d'ailleurs que fait Hong Sang-soo là-dessus. C'est un de ses sujets récurrents.
Il ne parle que de lui en plus.
En général, oui, oh ben ça, je ne connais pas quel grand cinéaste parle d'autre chose que de lui-même. Il faudra que vous m'en montriez. Je suis candidat.
Ken Loach, par exemple.
Si, il parle beaucoup de lui. Il parle beaucoup de sa façon de voir le monde. Bon, enfin bref, peu importe. Non, mais le héros récurrent de Hong Sang-soo, c'est en général un cinéaste. Pour la première fois, ça n'est pas un cinéaste, mais un éditeur.
Donc, ou un prof de cinéma.
Enfin quelqu'un qui a... Non, écoutez, moi je trouve que ces jeux de l'amour et un petit peu aussi du hasard sont extrêmement brillants. Effectivement, la référence, vous avez raison, au cinéma, on va dire de la nouvelle vague, et plus encore peut-être à Eric Rohmer, sont à mon avis présentes, et le pari est bien tenu. Il y a une façon d'entrelacer les choses, une façon de décrire les intermittences du cœur, les discours souterrains, ce qu'on refuse. Là, lâcheté masculine, je suis entièrement d'accord, et du coup, en face de la lâcheté masculine, eh bien, il y a un courage féminin qu'il est toujours bon de montrer, en tous les cas à mon sens. Le jour d'après, il faut vraiment aller voir ce nouveau film d'Hong Sang-soo, qui est un 21e opus, effectivement, c'est quasiment un film par an pour lui.
Doit-on rester avec un homme si lâche? That is the question.
Ah, oui, non,
le Serious Game de Pernilla Auguste. Dans la Suède du 20e siècle, une histoire d'amour impossible entre une femme et un homme qui n'ont pas les moyens finalement de se marier, qui vont être séparés par le temps aussi, et qui vont finir par se retrouver. Elle, Pernilla, avait joué chez Bergman, Fanny Alexandre. Elle l'a beaucoup aimé, mais elle ne sait pas très bien le copier, en fait.
Ben oui, c'est-à-dire qu'on se croirait un peu chez Terence Davis, qui, dans ma bouche, est effectivement pas un compliment. Non. C'est-à-dire que tout est millimétré, hein, c'est au début du siècle dernier, donc c'est vraiment, il n'y a pas de bouton de guêtre qui manque, les robes sont parfaites, les ambiances aussi, tout ça est très 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 bien filmé, les décorateurs est au premier plan, mais ça n'a guère d'intérêt, c'est-à-dire que c'est filmé platement, et c'est, alors qu'on nous vend une histoire d'amour passionné, c'est froid, c'est désincarné, c'est cérébral. Effectivement, elle n'a retenu de Bergman que la première éventuellement apparence, mais certainement pas. Elle a retenu la braise, mais certainement pas le feu qui est toujours en dessous.
Ali Lachèvre et Ibrahim de Chérif El Bendari. Alors, Ali rencontre Ibrahim. Ali, d'un tempérament jovial, qui voit un amour inconditionnel pour sa chèvre, tandis que Ibrahim, lui, est un ingénieur du son qui souffre d'acouphènes, qui parasite son travail et sa joie de vivre. C'est un road movie, Laurent, et un duo tendre et poétique.
Oui, voilà, c'est bien résumé. Effectivement, c'est le, tout à la limite, l'attrait du film, c'est dans cette rencontre improbable. Vous l'avez dit, moi, j'adore la caractérisation des deux personnages que vous venez de très très bien de faire. Le coup de l'ingénieur du son qui a des acouphènes, c'est extraordinaire. Ça lui brise sa vie, évidemment. Et ils se rencontrent, ils ne sont pas faits pour se rencontrer, tout les sépare ou presque, ils ont des enfermements personnels suffisants pour ne pas aller vers l'autre. Et bien ce road movie va permettre effectivement une rencontre humaine, chaleureuse, sympathique. On est avec eux, on est en empathie. C'est assurément pas un grand film, mais c'est un film qu'on suit avec plaisir.
The Wall de Doug Liman, l'auteur entre autres de La mémoire dans la peau, en oui. plein désert irakien. Quelques jours après la fin officielle de la guerre, deux militaires américains observent depuis des heures un chantier charnier sur le site d'un pipeline en construction. Persuadés que l'ennemi a disparu, ils sortent enfin de leur position mais se retrouvent aussitôt à la merci d'un sniper isolé. L'un reste presque mort à terre tandis que l'autre se réfugie derrière un mur, d'où tout au long du film il tentera de défier ce sniper invisible. Ou comment raconter le conflit irakien en un combat entre deux hommes, combat psychologique nourri de conversations par radio où chacun déploie ses arguments, sa vie, ses peurs ou son courage, sans compter les multiples micro-rebondissements qui rendent ce film complètement haletant. Personne n'en sort gagnant, pas de héros à proprement parler, et presque un anti-American sniper, c'est à voir, s'appelle The Wall. Et Rio Corgo, c'est à voir, Laurent, de Sergio da Costa et Maya Cosa, un documentaire portugais.
Oui, documentaire portugais. Alors, ça commence un peu mal, parce que ça commence comme un mauvais remake d'un film des Dardennes qui serait tourné, caméra portée avec la nuque et l'épaule en fond. Alors là, ça dure un peu trop. On se dit, oulala, ça va être terrible. Et puis non, ce road movie sur une sorte de cow-boy un peu excentrique, de vieux cow-boy un peu excentrique, qui revisite son passé, qui revient sur sa vie, finit par être extrêmement poétique, extrêmement frémissant, et la magie opère. Il faut juste, je vous le répète, passer cette première porte qui, hélas, est un peu lourde cinématographiquement. Mais après, ça va beaucoup mieux, et on est en empathie avec ce personnage, manifestement.
Reçu la semaine dernière, mais on rappelle la sortie ce mercredi du Vénérable W de Barbet Schroeder, troisième volet de sa trilogie du mal après Amin Dada et Jacques Vergès. Sur ce personnage abominable qui associe bouddhisme et racisme contre les musulmans.
C'est ça, il a réussi à trouver un bouddhiste fasciste, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on croit, mais enfin bon, c'est comme ça.
On passe directement à un festival, Laurent, dont vous voulez que vous
Oui, le festival de Contis dans les Landes, mais oui, beau festival, joli festival qui a plein de programmation, avec des films cannois d'ailleurs, certains seront présentés, 120 battements de cœur notamment, La Palme d'Or aussi, Barbara, j'en passe et d'autres.
La Palme d'Or, c'est The Square.
Absolument, The Square, tout à fait, vous avez raison de le dire. Ça ne franchissait pas ma bouche. Et puis les compétitions européennes de court-métrage notamment. Voilà, il faut aller manifestement, certainement du 15 au 19 juin à Contis. C'est là où le cinéma se trouve, dans cette région.
Laurent, vous avez choisi deux cadeaux pour nos invités.
Oui, excusez-moi, je vais faire un peu de bruit. Hop, voilà. D'abord un DVD pour chacun d'entre vous. C'est le même, c'est Corniche Kennedy, le nouveau
c'est
film
étonnant.
De Dominique Cabrera, mais que j'aime beaucoup et que nous avons reçu ici avec l'auteur Merci. Dont elle a adapté l'ouvrage, Maëlys de Kerangal. C'est un superbe film, solaire, puissant, oui, magistral, qui se passe à Marseille avec des petits plongeurs, et c'est une histoire d'amour à trois. Moi, j'aime énormément ce film, donc on est heureux de vous l'offrir. Et puis deux livres, un peu de lecture aussi en rapport avec le cinéma. Michel Bérébi, je sais que vous avez avec l'Afrique un rapport particulier. Eh bien, ce livre vient de paraître aux éditions Espace et Signes, et il est sur les spectateurs et sur les cinémas en Afrique. Très beau livre de photos, magnifique, vraiment. Et puis, pour vous, Louis, ce cinéma de Paris, Cinéma de Paris de Jean-Michel Frodon, édition du CNRS. Vous retrouverez toutes les salles que nous aimons, le Luxor, toutes les grandes salles parisiennes, analysées très très finement, leur historique, pourquoi elles sont là, comment elles vivent. C'est parfois pas si facile que ça.
Merci Michel Bérébi, merci Luigi Magri. Et allez voir, s'il vous plaît, mercredi prochain, Nothing Wood de Sonia Kronlund.
Sans aucun doute.
C'est une énorme recommandation.
Sans aucun doute.
Un merci à Jean-Bernard Emery. Et la semaine prochaine, nous serons à Annecy. Voilà, c'est fini. Générique.
البته یک برنامه است که تمامش
Il y a des réalisateurs, il y a des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Porto Cantès a écrit la musique du générique.
Et les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne Wenfeld.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Michel Bérébi, j'y étais.
Et moi, Luigi Magri, j'y étais.
Ma Salim Shahin, Indir Bodom, wa.
Et je remercie beaucoup cette très chère radio qui va porter mon message au monde entier. Et merci à ces chers journalistes et J'aime l'humanité.